Au psaume 133. Qu'il est bon, qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme le parfum répandu sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que le Seigneur assigne la bénédiction et la vie. Pour toujours. Oui, il est bon ce temps de culte, où la présence des uns et des autres est offerte aux uns et aux autres, comme le don d'une huile parfumée, d'une rosée rafraîchissante, pur bonheur où s'épanouit le présent et s'éclaire l'avenir. C'est une bénédiction qui coule et se dépose en nous, dans la grâce et la paix qui nous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ notre Sauveur. Invoquons le Seigneur. Et c'est avec un autre psaume, quelques versets du psaume 89 que nous louons. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour, d'âge en âge nous proclamerons ta fidélité. Oui, nous le savons, ton amour est établi pour toujours et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Le monde célèbre tes merveilles, Seigneur, et l'assemblée des croyants ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? C'est l'amour qui rayonne de toi. Heureux le peuple qui saura t'acclamer. Tout le jour à ton nom, il dansera de joie. Et je vous invite à poursuivre la louange avec le chant du cantique 256. Célébrons Dieu notre Père. et quelques mots de Jean Calvin pour nous indiquer la volonté de Dieu pour nos vies. Puisqu'il plaît à Dieu de nous conserver dans son amour, employons notre vie tout entière à son service et ne pensons, ne disons, ne faisons rien qui ne soit pour lui plaire et obéir à sa sainte volonté. Que toutes nos actions se rapportent à la gloire de son nom et au salut de nos frères et sœurs. Dans la prière, nous nous présentons à Dieu. Nous nous tournons vers lui dans la conversion, dans l'humilité. Tu nous as fait prendre part au fil de la vie qui vient de toi. Tu ne permettras pas que ce fil se rompe. Tu connais nos peurs et nos angoisses, notre petite foi, notre fatigue. Tu connais aussi notre orgueil, nos préjugés, notre manque de courage lorsqu'il s'agit de faire place à la justice ou de proclamer la vérité. Relève-nous, encourage-nous, vivifie-nous. Viens toi-même nous recréer avec l'énergie de ton esprit et la clarté de ta sagesse. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. La grâce de Dieu avec ses mots d'Angelus Silesius. Approchez-vous de Dieu comme d'un soleil rayonnant. Il éclaire, il réchauffe, il donne la vie. Quant à lui, il s'approche de vous comme il s'approche de la terre et votre cœur deviendra bientôt le plus beau des printemps.
Thank you.
confessons notre foi. Nous croyons en Dieu. Il est celui que nous ne pouvons comprendre ni atteindre, celui qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse, nous soutient dans nos défaillances, nous anime de son ardeur. Nous croyons en Dieu. Il se rencontre partout, dans la réflexion des sages et la prédication des prophètes, dans l'histoire, dans la nature, dans l'art. Il se rencontre surtout dans celui qui s'est abaissé, oublié, donné, dans celui qui s'est approché de nous pour nous parler, nous secourir et nous transformer. Il est en Jésus le Christ qui a peiné, souffert et qui est mort pour nous conduire à lui. Il est dans le ressuscité qui fait jaillir en nous une vie nouvelle. Nous croyons en Dieu. Il met en nous un esprit de paix, une soif de justice, un goût du service, la compassion pour le prochain. Il suscite une confiance qui ne désespère jamais, un amour que rien ne rebute, et il fait naître une espérance qui nous permet de voir plus loin que le monde. Ceci est vrai. Amen. Nous prions avant de lire dans les Écritures. Nous t'invoquons, ô notre Dieu, mais ta présence est déjà dans nos cœurs. Nous ne dirions pas « c'est toi » si tu n'avais déjà murmuré en nous « c'est moi ». Parle-nous, nous t'écoutons. Amen. Je vous invite à entendre aujourd'hui un texte de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14. C'est juste après la multiplication des pains. Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et voici ce qui se passe ensuite, du verset 22 au verset 33. Ensuite, Jésus obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, » dit-il. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu hésité ?» Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et lui dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu !» Et nous chanterons au cantique 151, les strophes 1, 2 et 3. La parole est à Dieu. Alors donc, le vent était contraire, la barque était tourmentée par les vagues, la terre était éloignée, et tout cela de nuit. Matthieu, en quelques mots, décrit une situation bien difficile et éprouvante pour les disciples. Mer agitée, vent contraire, obscurité, autant de circonstances qui font se sentir vulnérable, tout petit, bien fragile, impuissant, à la merci d'éléments incontrôlables. Et Jésus n'est même pas là. Il n'est pas avec les disciples, il les a envoyés de l'autre côté de la mer, il s'est séparé d'eux pour prier à l'écart sur la montagne. Une situation d'épreuve et l'absence de Jésus. Matthieu raconte dans ce court récit un apprentissage de la vie. Ce que c'est de vivre quand on est humain, croyant, disciple du Christ de n'importe quel temps et lieu. Vivre, nous dit Matthieu, c'est comme une traversée de mer avec des passages agités, des difficultés, des épreuves, des vents contraires, des vagues menaçantes pour les barques qui sont les nôtres. La traversée à laquelle Jésus pousse ses disciples, il les oblige, indique déjà que vivre, ce n'est donc pas rester amarré au même quai tout au long de ses jours. Vivre, c'est aller au large, prendre le risque des écueils et des périls. Faire face à ces écueils et ces périls, c'est ce qui est indiqué par la mer, qui n'est pas l'élément familier du peuple d'Israël, même quand il s'agit de ce grand lac qu'est la mer de Galilée. La mer, c'est toujours le lieu du chaos et des monstres. Dans le récit parallèle de l'évangile de Marc, Jésus est dans la barque avec ses disciples, mais il dort sur un coussin. Il dort si profondément qu'il ne se réveille même pas, que les disciples doivent quasiment le secouer pour qu'il se réveille. Matthieu est plus radical, Jésus est absent. Ce qui est bien l'expérience des communautés mathéennes et la nôtre. Deuil, rupture, échec, maladie, crise de toutes sortes, les vents contraires font tanguer nos barques. des barques qui ne sont jamais individuelles. Nous sommes toujours reliés à d'autres humains, d'autres personnes que nous n'avons pas toujours choisies. Et il faut parfois du temps pour se rendre compte avec qui l'on est embarqué. Plus largement que dans les barques que nous connaissons bien, celles des familles, des amitiés, des engagements, des églises, de l'Église. Avec ce récit, Matthieu fait réfléchir à ce que devient la foi lors de ces traversées éprouvantes. Et il met en garde contre deux risques, deux dangers auxquels les croyants sont confrontés. Il y a la preuve et il y a la peur, et nous commençons par la peur. En effet, à la quatrième veille, Jésus vint vers eux, marchant sur la mer. Les disciples furent troublés en croyant voir un fantôme et ils crièrent de peur. Il est vrai que Jésus emprunte un chemin plutôt étrange, tellement inattendu, tellement impensable que les disciples n'en croient pas leurs yeux. Dans l'épreuve des vagues, du vent contraire, ils pensent être menacés d'un danger encore plus grand, d'un danger supplémentaire, un fantôme. Ils n'imaginent pas et ils ne croient pas que Jésus puisse les rejoindre de cette manière improbable. Est-ce pourtant tellement improbable pour celui qui vient de nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? Mais les disciples sont tellement troublés qu'ils interprètent ce qu'ils voient comme étant le pire qui puisse leur arriver. Ils additionnent le vent, les vagues, la nuit, et cela donne un fantôme, c'est-à-dire ce devant quoi on se retrouve sans moyens et sans repère. Littéralement, en grec, les disciples croient voir un fantasme, une représentation altérée de la réalité. Et cela ouvre en eux la porte à la peur. Une peur sans raison, une peur générée par leur incompréhension et leur interprétation faussée, et une peur qui augmente encore leurs troubles. Il en est bien ainsi de toutes les phobies qui déforment la réalité en empêchant de voir ce qui est, parce qu'elles y superposent les filtres de la peur et des fantasmes. Mais alors le monde et l'humanité sont décomposés, littéralement décréés, nous sommes bien sur les eaux de la mer dangereuse. Alors forcément, la frayeur augmente encore plus, et cette auto-alimentation génère de véritables systèmes forteresses qui portent les noms divers, xénophobie, homophobie, autre phobie d'autrui, et l'on sait bien comment la peur conduit à la haine, au rejet, aux discriminations. N'en avons-nous pas encore été terriblement témoins cette semaine passée, quand des rumeurs absolument infondées ont généré des violences contre les Roms? J'ai appris un mot à cette occasion, la romophobie. Une romophobie alimentée de préjugés aussi anciens que persistants, au détriment de tous ces groupes humains nomades, différents, étranges. Tout ce qui est projeté de fantasmes sur l'autre empêche de le reconnaître pour qui il est, en vérité. Et Jésus lui-même n'y échappe pas. Face à cette étrange apparition, les disciples dans la barque manquent de foi. Matthieu ne l'écrit pas ainsi, mais c'est bien de cela dont il s'agit. Non pour juger, mais pour comprendre. Ce dont il est question, ce qui importe, ce n'est pas le miracle de la marche de Jésus sur l'eau. Ce dont il est question, ce n'est pas un moyen que Jésus prend. Ce dont il est question, c'est de croire que Jésus vient les rejoindre, et peu importe le moyen. Ce dont il est question, c'est de croire que Dieu ne se tient à l'écart d'aucune situation humaine, même par vent contraire. Et Jésus qui s'approche parle. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Et ces quelques mots recèlent tellement de confiance et d'encouragement envers les disciples. Ces quelques mots recèlent la lumière dans la nuit, la douceur sur la peur. Ce que dit Jésus, c'est que les disciples, nous ne sommes pas des fétus de paille destinés à être balayés par les vents, les vagues, l'adversité ou le mal. Nous sommes des humains avec des ressources en nous-mêmes, des ressources en Dieu dont Jésus est le symbole, des ressources les uns dans les autres et tout cela est très lié. Des ressources en nous-mêmes. Regardez bien, dit Jésus à ses disciples. Regardez non seulement à travers la peur, mais à travers votre intelligence et votre foi. Regardez bien ce qui est, et non pas ce que vous croyez voir. Regardez bien ce qui est, et non pas ce qu'on vous fait croire. Des ressources en Dieu, à travers Jésus qui dit « c'est moi », car c'est une manière de dire que Dieu vient en celui qui parle pour donner courage, pour aider à passer au-delà de la peur. Comme dans l'Ancien Testament, Dieu parle à Moïse ou à Josué en leur disant « c'est moi, je suis avec toi ». Comme à chaque fois que quelqu'un dit à une autre personne « c'est moi, je suis avec toi ». Il y a aussi des ressources les uns dans les autres, grâce à ceux qui nous entourent, grâce à ceux qui nous font confiance, qui nous encouragent dans nos épreuves et dans nos peines, malgré nos échecs et nos erreurs. Le Christ est toujours aussi à travers eux. Courage, dit Jésus, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est si peu de choses une parole face à la peur. Et c'est pourtant le seul moyen d'être libéré de cette peur. Une parole qui repose celui qui est effrayé dans la réalité. Une parole qui ranime la réalité d'une relation véritable et vivifiante, alors que la peur objective ceux qu'elle domine. Mais la peur est l'ennemi de la confiance. À la peur, il faut du solide, du sûr. L'exigence de la peur, c'est d'avoir une preuve. Une preuve massive, irréfutable, indiscutable. « Si c'est toi, dit Pierre, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. » « Si c'est toi, dit Pierre, fais donc un miracle pour moi. » La peur et la preuve s'appellent et s'entraînent l'une l'autre. Alors que Jésus, en venant dans la barque, a fait signe, signe de vie, signe d'amitié, signe d'espérance, clarté et douceur. Mais Pierre, qui n'a d'abord vu qu'un fantôme, ne voit alors qu'un prodige. Alors viens, répond Jésus. Parce que Pierre doit faire cette expérience par lui-même et pour lui-même. Et Matthieu écrit afin que nous en soyons avisés. Jésus sait bien que seule cette expérience fera véritablement avancer Pierre, que c'est elle qui le sortira de sa peur, de son fantasme. Jésus renonce à convaincre autrement. Il consent à cette exigence de la peur de Pierre, dont Pierre pense se libérer en devenant puissant, en faisant comme son maître, en marchant sur l'eau, en dominant le vent, les vagues, les épreuves et le mal. « Viens, dit Jésus, qui ne peut rien faire devant le manque de confiance, sinon accepter que Pierre aille jusqu'au bout de son exigence insensée et le rattraper, afin qu'il ne se perde pas. Parce que Pierre, qui s'était lancé, coule très vite. Ce n'est pas très étonnant, Personne n'est fait pour marcher sur l'eau. Pierre coule parce que il n'y en a jamais assez lorsqu'on veut être fort et puissant face à la peur. Pierre coule parce que la preuve exigée par la peur est toujours finalement insuffisante et qu'elle rend toujours plus vulnérable à la peur. Pierre coule parce qu'il n'a pas laissé Jésus venir à lui, c'est-à-dire que son assurance était centrée sur lui-même et non pas sur celui qui fait signe. Pierre coule parce que la foi et l'espérance n'ont rien à voir avec l'épreuve. Et puis, Pierre coule parce qu'il a quitté la barque, parce qu'il a quitté les autres disciples, parce qu'il a abandonné le navire. Il fait cavalier seul, il a joué perso, et pas collectivement. Il a rompu la communauté, la communion, pour un bénéfice personnel. Alors il ne lui reste plus qu'à crier, mais d'un autre cri cette fois, « Seigneur, sauve-moi !» Le cri de l'âme qui a abandonné toute prétention, qui ne peut plus que s'en remettre au Seigneur. Sauve-moi de la peur qui m'engloutit, sauve-moi de la nuit qui n'en finit pas, sauve-moi de la tentation de chercher une preuve. Et Jésus le saisit par la main. Il se met totalement en relation avec lui. Clarté, rencontre et proximité qui se donnent à l'humain en supportant toute peur et les hésitations et les détresses, sans jamais désespérer de personne, sans jamais juger. Oh, bien sûr, Jésus lui dit, homme de peu de foi, micro-croyant, oligo-croyant. Entre la peur et la preuve, il restait si peu de place pour la foi de Pierre. Pierre n'a pas cru que Jésus venait rejoindre les disciples dans la barque en marchant sur l'eau. Il a appliqué à Jésus sa propre manière de penser et ses propres limites. Il n'a pas cru le signe de la venue de Jésus ni la vérité de sa parole. Il n'a pas cru ce que Jésus incarne d'un peut-être, d'un possible, non de puissance, mais de proximité et de relation. Pierre a hésité. Si c'est bien toi. Il ne s'agit pas là du doute de la foi, ce doute légitime et sain qui porte sur les représentations ou les affirmations au sujet de Dieu. Il s'agit de l'hésitation due à la peur qui fait chercher l'assurance d'une preuve. Matthieu raconte que non seulement l'existence, les barques humaines sont soumises à bien des vents contraires, mais que la foi comme confiance est nourrie de signes seulement et non de preuves. Matthieu raconte que la foi ne rend pas puissant, mais qu'elle rend plus vivant. Matthieu raconte que la foi est l'énergie de la résistance aux peurs, aux phobies et au chaos. Jésus ramène Pierre dans la barque avec les autres disciples, avec cette communauté parfois improbable. Et alors le vent tombe. Et c'est certainement, Matthieu ne l'écrit pas, mais il me semble qu'à ce moment aussi le jour se lève. Les disciples n'évitent pas la peur, mais ils sont avisés de ses dangers, de ses fantasmes, de son pouvoir de dislocation. Cet apprentissage de la vie par la foi, c'est le nôtre. Nous pouvons parler de la peur et de ce qui permet de lui résister. La confiance, les signes de vie, la solidarité. Ce qui fait passer au-delà du vent des vagues, ce n'est pas la volonté d'être fort et puissant. C'est de croire que Jésus incarne, que ce que Jésus incarne vient rejoindre ceux qui sont dans la barque malmenée. C'est de croire que nous ne sommes pas abandonnés et livrés au vent, aux vagues et aux peurs, mais qu'il y a en nous et pour nous une clarté, une parole, un courage qui sont les nôtres. une clarté, une parole et un courage qu'on reçoit d'autrui. Une clarté, une parole et un courage qu'on reçoit du Dieu qui dit « C'est moi, je suis avec toi ». Bénédiction de rosée et de parfum dans laquelle coule la vie d'éternité, chante le psaume 133. Alors nous pouvons découvrir le oui à la vie qui nous aidera à vivre, c'est-à-dire à avancer, à évoluer, à grandir, à mûrir, à résister, à prendre des décisions. Et nous ne voudrons pas quitter le bateau pour un fantasme de puissance personnelle, mais nous voudrons rester solidaires, partager ce que nous aurons trouvé et reçu de confiance, de courage, de parole et de clarté, et prendre soin des autres, et nous rendre proches d'autrui, encouragés. Et cela, c'est comme une lumière, une espérance, une résurrection. C'est la vie.
Quelques annonces à vous communiquer. Donc déjà, vous parlez d'un concert qui a eu lieu cette semaine, un concert de la cause vendredi soir qui a réuni environ 60 personnes et qui a permis de récolter 150 euros pour le projet de l'orphelinat de Madagascar. Alors il y aura deux autres concerts qui seront organisés ce week-end. Ça, c'est des annonces de la part de Catherine, hein, je précise. Alors, l'orchestre de Stockholm par le hautbois de Jean-Christophe Robert, qui est pasteur à Auteuil, pour ceux qui connaissent. Alors, il y a eu des chants grégoriens, accompagnés par un arrangement de musique suédoise. Le chef d'orchestre était enthousiasmé par l'acoustique du temple et serait très heureux de revenir une autre année. Alors, autres annonces. Lundi, il y a l'accueil musical. Est-ce que, bon, Catherine demande si Fred sera là. Alors, je pense qu'il va lui répondre. Non, il ne sait pas. Donc, on lui répondra, on ne sait pas. Donc, voilà. Lundi, 14h, plié sous enveloppe de l'amitié d'avril. Mercredi soir, 19h30, étude biblique au deuxième étage après Esther et Ruth. Nous poursuivrons, nous dit Catherine, notre étude de quelques personnages féminins de l'Ancien Testament avec la prostituée Rahab, Josué 2, et la prophétesse et juge Déborah, juge 4 et 5. Samedi 6 avril, soirée pizza et cinéma avec le caté et les postes catés. Alors, soirée pizza. Au deuxième étage, de 18h à 21h environ. Donc les postes catés intéressés, c'est-à-dire les jeunes qui ont déjà confirmé, mais qui souhaitent continuer. Alors, donc je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont été présentes hier et qui nous ont aidés dans le déménagement du quatrième, donc des anciens bureaux du pasteur et de la chambre. Donc tout a pu être déménagé hier, c'est un bel exploit. Tout a été déménagé, rangé, reconditionné. Donc un grand merci à tous ceux qui sont venus nous aider. On a très bien travaillé, ça s'est très bien passé dans une très bonne ambiance. Merci aux scouts aussi qui sont venus. 3 jeunes le matin, une équipe le matin, une nouvelle l'après-midi. Et ça nous a permis de tout finaliser. Donc hier soir vers 17h à peu près, quelque chose comme ça, 17h, 17h30. Tout était finalisé. Donc un grand merci à tous, un grand merci aux scouts aussi. On va leur faire un mail avec quelques photos de souvenirs donc, de ce déménagement pour remercier chacun et remercier les scouts avec Christophe Varret et Valérie L'Huillier. Alors, autre annonce. Est-ce qu'il y a d'autres annonces d'abord ?
Bon, dimanche prochain, donc nous sommes deux à faire le culte. Donc moi, je serai plutôt dans la liturgie. Et c'est un ami qui est prédicateur, qui est membre de l'oratoire, que je connais depuis longtemps, qui va donc prêcher, présider le culte, en fait, donner la prédication. Voilà, nous sommes à deux pour le culte. Alors, c'est... Francis, voilà son nom, et Gérard Chambaudot, qui voilà, est membre de l'oratoire. Voilà.
Alors j'ai une autre annonce à vous faire. Comme j'ai vu qu'on a vu que vous étiez disposé pour les travaux et les déménagements, eh ben on va continuer. Alors on a enfin, c'est la bonne nouvelle, on va pouvoir enfin réaménager, vous savez, ces caves de la fête de l'amitié dont on parle depuis si longtemps. Alors tout d'abord, on va devoir donc engager quelques travaux dans ces caves. Pas grand-chose, je vous rassure, mais engager des travaux pour refaire un mur, ouvrir une porte qui avait été murée, pour donner un accès, donc, et agrandir, doubler l'espace, donc pour ranger tout le matériel de la fête de l'amitié, ce qui n'est pas du luxe. Et on a donc, on va réaménager la cave où il y avait l'ancienne cuve à fioul de 10 000 litres qui a été retirée et qui nous fait un très bel espace. Alors, ces travaux seront financés par l'entraide, dont qu'on peut remercier, parce que ça va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite sur le sujet. Donc on peut remercier l'entraide qui sont proposées donc de financer ces travaux. Et ça sera le peintre qui officie maintenant dans les murs ici depuis maintenant quelques semaines, qui a refait donc les bureaux du troisième et qui va refaire donc le futur appartement de Dominique, qui va gérer ces travaux. Voilà, donc on va avoir besoin, il y a un petit travail préparatoire de déménagement, de déblaiement, de mise aux encombrants. C'est moins pire que ce qu'on a fait hier, je vous rassure, je ne vais pas vous décourager. Donc il y aura moins de travail, mais j'aurai besoin de main d'œuvre. Alors, les courageux et les bonnes intentions sont acceptées, bien sûr. Alors je vous demanderai pour ceux qui seraient intéressés aussi pour me dire leur disponibilité, laissez-moi votre mail à la fin du culte pour que je puisse vous écrire et qu'on puisse décider un samedi où on peut faire ça. Voilà. Et en même temps, on ferait tous les travaux de déblaiement, donc en même temps qu'on va casser des cloisons donc, dans l'appartement du quatrième. Voilà. Je crois que j'oublie rien. Pas d'autres choses à dire ? Dominique, non ? Pas d'autres annonces, c'est bon ? Voilà. Alors, nous allons donc passer maintenant, puisqu'on parle... Oui, je vois Teresa qui me fait des signes. on parle beaucoup de travaux. Les travaux, ça coûte de l'argent. Et donc, nous allons passer au moment très attendu et que tout le monde réclame, c'est celui de l'offrande. Voilà.
Voici le moment de nous rassembler dans la prière les uns pour les autres, la prière d'intercession. Notre Père, fais monter encore et toujours en nous ton Esprit Saint, afin que, libérés par toi, nous marchions ensemble au milieu des déchirures du monde. Et que nous proclamions la bonne nouvelle de la réconciliation, de la guérison, de ta justice. Dans l'esprit de paix, nous nous ferons proches des inquiets, des apeurés, des révoltés. Dans l'esprit de fraternité, nous rejoindrons les fatigués, les indécis, les découragés. Dans l'esprit de compassion, nous serons attentifs aux malades, aux endeuillés. Dans l'esprit de résurrection, nous marcherons au milieu de l'exclusion et du désespoir, dans la promesse de la plénitude de la vie. Dans l'espérance, nous traverserons le désarroi causé par les mépris, les pertes d'identité et les menaces sur notre terre, en discernant les signes de l'advenue du Christ. Avec et par ton Esprit Saint, fais de nous et de l'Église une communauté d'apaisement et d'encouragement qui sème la confiance et qui partage la joie. Ceux qui le souhaitent, je ne sais pas exactement quelles sont vos habitudes. Mais ceux qui le souhaitent peuvent dire à voix haute le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. C'est l'amour de Dieu qui vous entoure. C'est la force de Dieu qui vous soutient. C'est la paix de Dieu qui emplit vos cœurs. Allons dans la joie du Christ vivant. Amen.
Alors avant de nous quitter, nous tenons à remercier Dominique Hernandez pour sa venue parmi nous, l'occasion de se connaître, pour ceux qui ne la connaissaient pas, l'occasion de se rencontrer. Et donc nous avons proposé de faire un verre de l'amitié donc qui se passera dans les deux premières salles à l'entrée. Donc je vous invite à vous rendre donc à ce verre de l'amitié avec donc bien sûr Dominique qui est invité, bien sûr, bien évidemment. Et ça sera l'occasion de nous voir, de discuter, de faire connaissance. Voilà. Autre chose ? Non, rien ? On peut peut-être vous souhaiter un très bon anniversaire. Je voulais quand même... C'était hier, mais on peut vous le dire aujourd'hui. On vous souhaite un excellent anniversaire. Merci. Et je vous invite tous au verre d'amitié, donc, dans les deux petites salles. Voilà. Bonne journée.